prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Vous en avez assez du sensationnalisme médiatique? Vous préférez les éclipses solaires plutôt que les éclipses médiatiques? Vous sentez votre intelligence attaquée par les nouvelles du Canadien qui occupent plus d'espace médiatique que les vraies affaires? Tout ça, c'est la faute aux médias. Vous écoutez la Photomédia en compagnie d'Émilien Roscanou à l'animation. Donc, vous êtes sur les ondes de choc.ca. Cette semaine à l'émission, on parle de budget avec vos chroniqueurs. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Francis Huot, Camila Rodriguez-Sea, ainsi que notre nouvelle recrue Isabelle Chénier, notre stagiaire, ce qui implique qu'elle fait exactement le même travail que les autres, mais qu'elle n'est pas payée. Donc, à la technique, nous avons Alex Bachalani, et à la musique, nous avons DJ Charles Lemieux, qui nous aide avec tout ça. Et puis, commençons tout de suite. Dirigeons-nous vers Camila. Donc, après une semaine très forte en émotions, très chargée, qui a laissé derrière nous les attentats de Bruxelles, les attentats au Pakistan, l'arrestation de Nathalie Normando et le décès de nombreux personnages publics. Après toute cette grosse semaine, Camila, tu vas nous parler du budget.
Donc, en général, il y a plusieurs types de nouvelles, puis il y a certaines nouvelles qu'on peut prédire, puis il y a certaines nouvelles qui sont... Bon, je vais recommencer. En général, il y a plusieurs types de nouvelles. Il y a certaines nouvelles qu'on peut prédire. Il y en a d'autres qui sont imprévisibles, donc qui arrivent vraiment sans prévenir. Dans la première catégorie, il y a, par exemple, les attentats qu'on en a de plus en plus souvent dernièrement. Il y a les décès. Puis cette semaine, on a eu Bruxelles, on a eu le décès de Rockford, on a eu celui aussi de Jean Lapierre. Mais aussi, on a des événements qui sont prédéterminés, soit à court terme, comme des conférences de presse, ou alors des événements qui sont presque immuables, comme des remises de prix ou des dépôts de budget.
C'est justement du budget qu'on va parler aujourd'hui.
Oui, le budget qui a largement été éclipsé par d'autres nouvelles malheureusement plus spectaculaires. À mon avis, Justin Trudeau aurait aimé que son budget soit plus couvert, comme presque tout que Justin fait au niveau communicationnel. C'est très bon pour le budget. C'est surtout les personnes âgées et les jeunes familles qui en ont bénéficié. Personnellement, comme individu, je fais partie de plusieurs catégories. Je suis jeune, je suis étudiante, mais je fais partie d'une autre catégorie. Comme 50% des humains de la Terre, je suis une femme. Donc, je me suis penchée sur les mesures féministes de Justin Trudeau. Parce qu'on a un premier ministre qui se dit féministe, et juste ça, c'est énorme. Beaucoup disent que Justin Trudeau, c'est un beau parleur, mais un petit faiseur. Bon, dans ce cas-ci, disons que dire contribue à faire. Parce que quand on a un premier ministre qui se dit féministe, on envoie un message que c'est correct d'être féministe, premièrement, mais ensuite même qu'un homme peut être féministe, puis pas n'importe lequel, là, le premier ministre. Donc, ça contribue à déstigmatiser le titre de féministe, comme on en a parlé dans une émission précédente.
Mais ça prend quand même des actions concrètes, non?
Oui, évidemment. Justin Trudeau avait commencé sa lancée avec la nomination de 50% de femmes à son cabinet, on s'en souvient. Il avait trouvé dans les 183 élus 15 femmes assez intelligentes et compétentes pour être ministre, figurez-vous.
Tout un exploit.
N'est-ce pas? Dans le précédent cabinet ministériel, il y en avait seulement 12 sur 27. Là, la ministre de la Condition féminine, Patricia Hajdu, elle-même se dit une féministe. C'est incroyable et ça fait changement du provincial.
C'est sûr.
J'attends toujours, par contre, une femme ministre de la Défense, mais bon, peut-être que ça viendra dans les 60 prochaines années. Et vraiment, mais au-delà qu'il y ait des femmes au cabinet, ce qui est génial en soi, mais tu sais, ça reste cantonné un peu à l'individu et non à la société, parce qu'il faut que ces femmes mettent en place des mesures féministes. C'est ça le plus important.
Et des mesures féministes, est-ce qu'il y en a dans le budget?
Oui, c'est assez intéressant. Il y en a assez peu, mais la plus importante, c'est que le gouvernement prévoit 500 milliards dans le cadre, dans le fond, qu'il veut mettre en place un cadre national de services de garde. Puis ça, il veut le faire en collaboration avec les provinces. Au Québec, on en a déjà un, les CPE, les garderies à 7 $, mais c'est pas le cas pour toutes les provinces. Puis donc, il s'agit vraiment de regarder avec les provinces comment faire pour mettre en place cette mesure-là, parce qu'il y a une volonté dans le budget qui est assez impressionnante de vouloir collaborer avec les provinces. La collaboration avec les provinces revient environ 40 fois dans le budget, c'est assez intéressant, mais ça fait que dans le concret, il y a peu de mesures, il y a une volonté apparente.
Oui, puis j'imagine que c'est 500 millions que tu voulais dire, pas 500 milliards.
Probablement, oui.
Effectivement. Si un ministre veut passer une mesure qu'il sait impopulaire, il le fera par exemple...
Oui, lors d'une éclipse médiatique, mais je pense qu'on pourra en revenir pendant le débat après les chroniques, si c'est correct avec toi.
Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Camilla.
Pas de problème.
Donc maintenant, on enchaîne maintenant avec Isabelle, notre super stagiaire. Donc, je vais vous citer Bill Morneau. Nous devons en faire plus pour appuyer nos artistes et le milieu culturel au Québec et partout au pays. Cette citation-là de notre ministre des Finances lors du dépôt du budget porte à croire que Radio-Canada peut maintenant souffler suite aux années des coupures budgétaires et des vagues de mise à pied. Notre stagiaire, donc Isabelle, va nous parler de ce réinvestissement important prévu par le gouvernement fédéral dans le domaine de la culture, notamment auprès de notre diffuseur public préféré, Radio-Canada.
Oui, alors, le gouvernement libéral du Canada a présenté son budget le 22 mars passé. Bon, comme plusieurs d'entre vous, je suis autant familière au concept de budget qu'une future mariée à l'émission « C'est Yes to Dress ». Comme dirait ma sœur, « C'est Yes to Dress ». Cependant, lorsque j'ai appris que le gouvernement fédéral prévoyait l'investissement de près de 700 millions de dollars aux diffuseurs publics de Radio-Canada, CBC, sur 5 ans, eh bien, ça a piqué ma curiosité. C'est encore la faute aux médias.
Bonne pub pour l'émission, notre stagiaire. Par ailleurs, il a été possible d'entendre le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, défendre ses choix budgétaires lors d'une entrevue avec Philippe Marcoux à Matin d'ici.
Oui, en effet, Justin Trudeau a affirmé à cette émission du matin que ses réinvestissements au sein de cette société permettraient, j'ouvre les guillemets, à Radio-Canada de remplir son mandat, c'est-à-dire de raconter les histoires et de partager l'histoire du Canada dans les deux langues officielles partout au pays. Cutie.
J'entends l'hymne national qui me joue dans la tête.
Oui, donc sur les 200 milliards de dollars alloués au domaine de l'art et la culture, s'étendant sur une période de 5 ans, 75 millions de dollars supplémentaires seront versés cette année à cette institution indispensable, dis-je bien, pour reprendre les mots du ministre des Finances Bill Morneau, en plus de 150 millions de dollars par année répandus sur 5 ans.
Dans un contexte budgétaire plutôt difficile avec un déficit de près de 30 milliards de dollars, ça semble être une aide assez considérable pour Radio-Canada CBC.
C'est exactement la remarque qu'a fait Alain Gravel à la ministre du Patrimoine Mélanie Joly, qui est passée à l'émission Gravel le matin le 29 mars dernier. Celle-ci a tenté d'expliquer, avec l'aisance qu'on lui connaît, que cet investissement consistait en fait à un changement de paradigme. Le gouvernement libéral croit que le domaine de l'art et la culture est générateur de croissance économique. C'est en encourageant les artistes, les créateurs, qu'on favorise l'innovation et qu'on amasse des bidous.
Et puis, ça fait changement du gouvernement conservateur précédent.
À qui le dis-tu, mon chou? Mélanie Joly a expliqué que ces 675 millions allaient permettre une modernisation de Radio-Canada en insistant sur le virage numérique. Un virage numérique qui permettrait la création de nouveaux emplois, la production de contenus multiplateformes innovateurs, en plus d'assurer la relève pour les 50 prochaines années, dit-elle. Or, malgré ce réinvestissement de grande ampleur, le PDG de Radio-Canada, Hubert Lavoie, maintient son plan de coupure budgétaire se résumant par la mise à pied de 2500 emplois d'ici 2020. Il semble y avoir un petit paradoxe. Le gouvernement fédéral investit pour créer des emplois, mais Radio-Canada continue de licencier des employés. C'est à quoi la ministre du Patrimoine répond qu'elle tient à l'indépendance de Radio-Canada, donc à sa capacité à faire ses propres choix, à mettre sur pied ses propres stratégies budgétaires. Elle veut éviter toute interférence politique avec le diffuseur public. Cependant, ce réinvestissement de 675 millions dans la société d'État n'est pas un peu de l'interférence politique?
On se le demande.
Oui, Radio-Canada est indépendant du point de vue éditorial. Cependant, lorsqu'il s'agit d'argent public, c'est plaisant de savoir où iront cet argent, où iront l'argent et comment aidera-t-il le fonctionnement de la boîte. Madame Joly affirme vaguement qu'un plan de reddition des comptes sera mis sur pied. De plus, les éditeurs privés comme TVA ou V se disent inquiets d'un tel financement par l'État. La compétitivité dans le marché pourrait être déséquilibrée en faveur de Radio-Canada. Mélanie Joly estime que l'argent attribué au domaine de l'art et la culture, soit 1,9 milliard, permet de, tenez-vous bien, développer un écosystème propice à l'épanouissement de tous les acteurs, soit les journalistes et artistes qui sont la faune et la flore. Bon, je crois que la ministre Joly, ce serait plus au ministère de l'Environnement. Ainsi, ces investissements qui iront notamment au Conseil des arts au Canada, à Téléfilm Canada et à l'Office national du film vont permettre aux créateurs de produire de nouveaux contenus qui peuvent être diffusés par des diffuseurs privés. J'aimerais terminer ma chronique par une citation inspirante de la ministre du Patrimoine. Faire en sorte que... Faire en sorte que...
Sur ces belles paroles pleines de sens, on va dire merci à notre stagiaire pour cette belle chronique.
Merci stagiaire.
Merci. Et maintenant, on va se laisser en chanson. On va écouter Nord-Est de Rosie Vallant.
J'aimerais que ça frappe à ta porte.
C'était Nord-Est de Rosie Vallant. Vous écoutez choc.ca, la faute aux médias en compagnie d'Émilien Roscanou, votre animateur. Maintenant, on va se diriger vers Francis. Donc Francis, comme on le sait, de nombreux acteurs du milieu médiatique au Québec s'opposent au financement public des médias. Donc tu vas nous parler des avantages de la radiodiffusion publique et puis tu vas nous comparer un peu le financement de Radio-Canada à celui des médias publics ailleurs dans le monde. Le financement public de Radio-Canada ne fait pas l'unanimité.
Effectivement, Émilien, il y a certainement beaucoup de journalistes, de chroniqueurs et de propriétaires de médias privés qui sont contre. Et même des politiciens. C'est pas un secret pour personne que les conservateurs de Stephen Harper étaient pas très fans de Radio-Canada.
Ils ont tout brisé. C'est une blague, Francis. Continue.
Je pense qu'il y avait quelque chose de brisé pour vrai.
Pour une fois que c'était pas la faute des médias, c'était la faute des conservateurs.
Je voulais vous faire écouter un extrait de Stephen Harper qui était en entrevue en février 2015 au FM 93 à Québec avec Éric Duhem et Nathalie Normandeau, à l'époque où elle animait une émission de radio, où il parle des valeurs des Québécois. Manon.
Positions fortes dans le monde qui sont appuyées par les Québécois. Nous défendons nos valeurs, notre sécurité ici et à l'étranger. Je comprends très bien qu'il y a beaucoup à Radio-Canada qui détestent ces valeurs, mais je pense que ces valeurs sont les vraies valeurs d'un grand pourcentage des Québécois.
Donc, Stephen Harper dit publiquement à la radio privée par-dessus le marché que Radio-Canada déteste les valeurs portées par les conservateurs.
Mon Dieu, ça m'avait pas manqué d'entendre sa voix.
Effectivement. Puis c'est sans équivoque. Ça démontre bien que ce que pense Stephen Harper de la société d'État.
Je n'aime pas les sociétés d'État. Effectivement. Mais Francis, pourquoi financer les médias publics?
L'éminent politologue québécois Henri Milner, qu'on a beaucoup étudié dans nos cours de CPS, dans un livre qu'il a écrit sur les compétences civiques.
Dans nos cours de communication politique et société?
Oui, oui.
On a vraiment étudié ça? Je savais pas.
Il dit
que les
dit que les compétences civiques et les habiletés dont disposent les citoyens et les citoyennes pour comprendre le monde politique, il affirme qu'il existe une corrélation directe entre le financement des médias publics et les compétences civiques des citoyens et des citoyennes. Donc, par exemple, le niveau de connaissance politique des Allemands est plus élevé, selon Milner, que celui des Américains, et notamment à cause du rôle que jouent les réseaux de télévision publique dans ces deux pays. Selon une étude commandée par CBC Radio-Canada au milieu des années 2000, le financement public reçu par les radiodiffuseurs publics est de 134 $ canadiens par habitant en Allemagne, compte 5 $ canadiens seulement par habitant aux États-Unis. Donc, la différence est majeure.
Oui, c'est énorme. Et le niveau de compétence des Canadiens, est-ce qu'il est bon?
C'est difficile à évaluer. Il n'existe pas vraiment de tableau de gris qui compare de façon infaillible les compétences civiques des habitants et des habitantes d'un pays versus un autre. Dans l'étude commandée par Radio-Canada, dont je parlais tantôt, les chercheurs ont identifié 4 critères pour mesurer le besoin, entre guillemets, le besoin de financement public des médias pour un échantillonnage de 18 pays occidentaux. Les critères étaient la promotion de la culture et des valeurs communes, la taille relative du marché dans chaque langue de diffusion, la proximité d'un pays voisin parlant la même langue et l'intérêt de la programmation nationale pour la population du pays. Des notes ont ensuite été attribuées à chacun des 18 pays qui ont été analysés pour créer un palmarès. Grosso modo, le résultat de cette analyse, qu'on va publier sur notre page Facebook pour pas trop entrer dans les détails, c'est que le Canada serait le pays qui a le plus à attendre de la radiodiffusion publique. C'est-à-dire que la population canadienne serait celle, parmi les 18 pays qui ont été analysés, qui bénéficierait le plus d'un financement accru des médias publics.
Puis comment se compare le financement de la radiodiffusion publique au Canada par rapport à ces autres pays-là développés?
Le Canada fait piètre figure. Au premier rang, on retrouve la Suisse, qui finance à la hauteur de 154 $ par habitant la radiodiffusion publique. La Suisse est suivie au deuxième et troisième rang par la Norvège et l'Allemagne, qui financent respectivement à la hauteur de 147 et 134 $ par habitant la radiodiffusion publique. Au 18e et dernier rang, on retrouve, comme je le disais tantôt, les États-Unis avec un financement de seulement 5 $ par habitant. Et le Canada se positionne, quant à lui, au 16e rang avec un financement de seulement 33 $ par habitant.
Et avec le réinvestissement de 675 millions de $ sur 5 ans consenti par les libéraux, ça nous place où?
Ça représente à peine 3,75 $ par habitant d'augmentation en moyenne par année. Donc c'est à peine assez pour dépasser l'Espagne au 15e rang, mais on est très loin du 154 $ par habitant qui est investi par les Suisses.
Tout est relatif. Merci Francis.
Merci Emilien.
de retour à la Photomédia. En dernière partie d'émission, une petite discussion. Donc, Isabelle, étant notre super stagiaire, oui. C'est toi qui t'es tapé la lecture du budget l'État-O,
oui.
Le budget québécois. Qu'en as-tu retenu?
Dans le fond, ce que j'en ai retenu, c'est pas mal. Le budget est pas mal axé sur l'allègement des contributions fiscales des entreprises. Par exemple, on mise un peu sur la vieille économie. Par vieille économie, j'entends, mettons, 450 millions pour la Société du Plan Nord, 230 millions de dollars au secteur forestier, 10 millions pour la stratégie maritime, 539 millions en rabais tarifaire d'électricité pour les entreprises manufacturières.
Donc, beaucoup de cadeaux aux entreprises.
Oui, beaucoup. j'ai relevé... peut-être 4 mesures quand même drôles que je les ai appelées.
Les mesures quand même drôles.
Oui, elles sont quand même drôles. Là. 3 millions en stratégie gouvernementale sur l'égalité entre hommes et femmes.
Wow, c'est beaucoup trop ça.
Oui, c'est pas mal. 1,9 million pour la prévention de la violence sexuelle. Oui, c'est bon ça. 2,4 millions pour les milieux autochtones. Et tenez-vous bien, pognez-vous une table, quelque chose, 100 000 $ pour les banques alimentaires.
Incroyable.
100 000 $ pour cet argent-là.
Mais tu sais, c'est quand même drôle parce qu'au sujet des banques alimentaires, j'avais lu quelque chose d'assez intéressant. Ça disait, oui, c'est important de donner de l'argent, mais on a souvent cette vision-là comme quoi qu'on va régler tous les problèmes, par exemple de l'itinérance ou de la pauvreté, en donnant notre argent. Mais en fait, ça prend des investissements de l'État, tu sais, des changements structurels. Là, c'est pas en... individuellement en donnant de l'argent qu'on va arranger quoi que ce soit.
En investissant dans le système de santé aussi, là, prévention des maladies mentales et tout. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas tout miser sur les banques alimentaires, mais quand même...
quand même ridicule, oui, je comprends.
Autant rien donner, là. En tout cas, mon opinion.
Et puis tout à l'heure, on parlait d'éclipse médiatique. Camilla, tu avais fait un petit peu de recherche là-dessus.
Parce que dans le fond, les budgets ont passé dans le beurre à cause qu'il y a eu tellement d'autres événements en même temps. Puis on s'est demandé, est-ce que ça, c'est une éclipse médiatique? Mais en fait, non. Parce qu'une éclipse médiatique, c'est quand, admettons qu'il y a un événement inattendu, comme je vous parlais tantôt, qui arrive, admettons, le Canadien gagne. Vraiment inattendu, incroyable. Puis là, le gouvernement profite pour en passer une petite vite en parenthèse. Donc, il lancerait, par exemple, une coupe de 40 millions. Donc, comme on parle juste de l'autre événement, celui-là, ben, il reçoit moins d'attention. C'est ça, une éclipse médiatique.
Donc, pourquoi ce ne serait pas le cas dans ce cas-ci, dans le cas des budgets?
Parce que le budget, lui, la date du budget était décidée d'avance énormément. Là. Il n'a pas été lancé à la dernière minute comme ça. Oh, attends, allez, on lance le budget! Ça n'a pas été fait comme ça.
Effectivement, ce serait un petit peu... aller vers les théories du complot.
Ça serait comme déclencher des élections, par exemple, au moment qui nous semble le plus opportun. Mais à ce moment-là, souvent, on perd, puis Pauline Marois démissionne. Francis?
Ah non, j'avais rien à dire. En fait, je pense que le gouvernement provincial est certainement beaucoup plus content de l'éclipse médiatique qui consiste à l'arrestation de Nathalie Normando parce que son budget était austère et il y avait peu de bonnes nouvelles pour la classe moyenne puis la population en général. Tandis que Justin Trudeau devait être assez déçu de voir que des attentats terroristes, évidemment parce qu'il y a eu des morts, mais...
Non, surtout parce qu'ils lui ont volé la vedette,
oui, exactement, c'est ça... Son budget est passé un peu inaperçu à cause de ça.
Ouais.
Oui, c'est ça. Et puis, Infoman, Jean-René Dufort avait bien fait une belle comparaison entre les deux, là, disant qu'on se fait donner des bonbons au fédéral, mais au provincial...
On se les fait retirer.
On se les fait retirer.
Ben, c'est ça, il avait dit, d'un côté, au Québec, le budget, c'est cheap à Québec versus party à Ottawa.
Exact.
C'est juste.
Sur ces belles réflexions, j'aimerais remercier encore une fois Francis Huot, Isabelle Chénier, notre stagiaire.
Merci!
Ainsi que Camilla Rodriguez. C'est aux chroniques. Et j'aimerais remercier également Alex Bachalani à la technique et Charles Lemieux à la musique. Parlant de musique, on va se quitter en chanson avec Don't Use Me Up d'Emily Wells.
down. All your friends are your best friends when you wash it down. So go meet the devil. Go meet Jesus when you wash it down. When you wash it down. Don't tell me
Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale, tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade.